Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. On vous invite à passer à table, ou plutôt à partir à la rencontre d'une passionnée du goût, passionnée des bons produits. Julie Le Chat est aux commandes de Mon Panier de Campagne. L'histoire, vous allez l'entendre, d'une reconversion réussie qui met en valeur les éleveurs et producteurs de la région toulousaine. Bonjour Julie.
Bonjour, merci de m'accueillir dans votre émission.
Eh bien, merci à vous de nous rejoindre pour Le Goût d'entreprendre. Alors, que trouve-t-on chez Panier de Campagne ?
Alors, notre spécialité, ce sont les produits locaux. Et en plus des fruits et légumes que vous avez l'habitude de trouver, on propose des viandes, des poissons, des fromages, des yaourts et de l'épicerie. Et le tout en provenance de la région Occitanie.
La région Occitanie, de toute l'Occitanie, Julie ?
On essaye de se cantonner à 150-160 km autour de Toulouse, mais c'est vrai qu'on est amené à aller dans le Gers, dans l'Aude, un petit peu dans le Tarn-et-Garonne. On se balade.
Tout autour de Toulouse et effectivement en Occitanie. Alors comment vous est venue l'idée ? Racontez-nous toute l'histoire, on veut tout savoir. Mon Panier de Campagne, vous êtes aux commandes donc de l'entreprise depuis 3 ans, c'est bien ça ?
Oui, exactement. L'idée initiale n'est pas venue de moi, c'est de la fondatrice Nathalie. Qui a eu cette brillante idée en janvier 2010. Donc, l'entreprise a fêté bientôt ses 11 ans. Et moi, je suis aux commandes depuis juillet 2017. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans. Et j'ai été cliente.
D'accord.
C'est comme ça que j'ai connu l'entreprise.
Alors, de cliente, vous êtes devenue chef d'entreprise.
Voilà. En fait, ça a été une histoire assez incroyable. On se faisait livrer donc des courses locavores à la maison. Et mon mari, c'est lui qui réceptionnait toujours les courses. Et donc, il voyait Nathalie toutes les semaines. C'était devenu quelqu'un voilà, de proche, hein, une vraie personne de son entourage. Et souvent, il me disait oh, « C'est fou, qu'est-ce qu'elle te ressemble, Nathalie ? Elle est exactement comme toi, elle a les cheveux courts, elle est dynamique. Vous avez vraiment le même profil. » Et donc, bon, il me disait ça chaque semaine. Et jusqu'au jour où il me dit « Tiens, c'est drôle parce que en fait, Nathalie, je lui ai parlé de tes projets de reconversion, de permaculture, de maraîchage. » Et elle m'a annoncé qu'elle souhaitait vendre l'entreprise pour déménager. Et là, ça a été un gros choc en fait pour nous deux parce que moi, j'avais envie de changer un peu de carrière et puis de retrouver du sens et de m'investir dans un projet voilà, qui avait du sens pour l'écologie, l'avenir de notre pays et puis voilà de notre
vous
planète
aussi, bien sûr.
Et pour moi et puis tout d'un coup on avait cette opportunité et surtout que mon mari étant dans l'informatique l'alliance de nos deux savoir-faire et personnalité tombait à pic. Et
rien n'arrive par hasard hein, c'est ça.
Voilà. C'est un peu ce qu'on s'est dit quand t'es arrivé, ça nous est tombé dessus. Ouais. Exactement.
Alors vous vous êtes dit, allez, ni une ni deux, je quitte mon job. Vous faisiez quoi à ce moment-là ?
Alors moi, j'étais dans le monde de la finance internationale. J'étais avocate en droit fiscal et pour plutôt des grosses structures. Et donc dans le conseil fiscal.
Rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui.
Oui.
Et vous avez osé. Voilà. Vous avez osé, franchi le pas.
Exactement. Ça avait rien à voir et en même temps, j'accompagnais déjà beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs. Donc c'est vrai que j'étais dans le quotidien des entreprises et des décideurs en fait. Hein. Donc c'est vrai que ça me faisait pas trop peur parce que je voyais bien ce que c'était que la gestion, la finance, la stratégie d'une entreprise. Mais il fallait oser en fait, il fallait oser quitter un travail pour lequel on a fait des études, pour lesquels on est bien rémunéré, avec lesquels on a des collègues, et pour se lancer dans une entreprise où à l'époque il n'y avait que la gérante et une salariée. Et où les espoirs de gains financiers ne seraient pas du tout les mêmes. Voilà.
C'est ça, tout à fait. Mais est-ce qu'à un moment, vous avez eu peur ?
Je pense qu'il faut avoir peur, un petit peu quand même, pour se lancer. Parce que sinon, après, on est forcément un petit peu trop confiant. J'ai eu peur, oui. Et en même temps, pour moi, cette entreprise, elle avait tellement de potentiel qu'on ne pouvait pas la laisser juste être une micro-entreprise avec une salariée et une gérante, en fait. Il fallait porter ce projet beaucoup plus loin parce que c'est une alternative complète aux courses traditionnelles qu'on connaît depuis les années 60 et dans lesquelles moi j'ai grandi, hein, et qui a tellement d'avantages qu'on ne pouvait pas juste laisser ça comme quelque chose d'anecdotique et voire de confidentiel. Voilà, c'était pas possible pour moi. Donc en fait, la peur, elle a vite été dépassée par cette grosse envie de convaincre et de propager la bonne bouffe et l'éthique derrière cette entreprise.
Tout à fait. Et les valeurs que vous souhaitiez aussi partager, c'est ça?
Oui, exactement.
Alors, vous travaillez avec des éleveurs producteurs de la région. Comment vous les avez rencontrés, ces éleveurs? Comment vous les choisissez? Ça, c'est important de nous le dire.
Oui. Ma chance, c'est que j'ai racheté une entreprise qui fonctionnait déjà, que une grosse partie des partenariats avec les producteurs avait été mis en place par Nathalie. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est qu'il y a des partenaires qu'on a depuis 10 ans. Qui ont grandi avec nous, qui nous sont extrêmement fidèles et qui nous suivent même dans les périodes de grosses tempêtes comme le premier confinement. Donc c'est comment elle les a choisis et comment j'ai continué à les choisir. Le cahier des charges, c'était des personnes qui ont des petites exploitations, qui sont très écologiques, donc haute valeur environnementale, respect de la terre avec le minimum d'intrants possible. Donc souvent on dit de ces personnes-là qu'ils ont une culture, un maraîchage raisonné. Ça veut un peu tout et rien dire, mais dans notre cas, ce sont des maraîchers qui ne traitent pas de manière systématique, qui ne traitent que si leur plantation est malade. Il n'y a pas forcément d'engrais, il y a plutôt des recherches autour de luttes intégrées, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer des insectes qui vont lutter contre ceux qu'on ne veut pas voir se propager. Et puis il y a aussi tous ceux qui prennent la tendance bio et vont se convertir en bio avec tous les efforts que ça demande, ou ceux qui s'installent directement en bio. Voilà, ça pour le maraîchage et puis l'arboriculture, nos critères sont ceux-là. Pour ce qui est de l'animal, de l'élevage, parce qu'on a quand même des viandes, des poissons, des fromages, des yaourts, l'idée est la même, c'est que derrière il faut que ce soit des petites exploitations qui maîtrisent la chaîne alimentaire complète de leur élevage. Donc souvent le produit, il est dit fermier parce que l'aliment, il est produit à la ferme.
Ouais.
Ça, c'est important. Et puis surtout, on a la chance d'avoir des producteurs qui ont construit des labos de transformation à la ferme. C'est le cas pour 4 sur 6 quand même. Et qui donc sont aussi en maîtrise de la découpe et en maîtrise de la mise en sachet, de la DLC. Voilà. Et donc, comme ils maîtrisent toute la chaîne, eux arrivent à contrôler leur valeur ajoutée et à vivre de leur métier. Et nous, derrière, on a un circuit qui est complet, quoi.
Est-ce que ce sont des valeurs que vous expliquez ça aux clients? Est-ce que les clients sont curieux, justement, de savoir d'où viennent les produits, comment ils sont travaillés, etc.?
Alors oui, nous, on arrive à l'expliquer sur le site par une transparence absolue. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix, qui est parfois difficile à mener commercialement, mais on a fait le choix, sous chaque produit, de mettre le nom du producteur, ouais, avec un lien. Et puis voilà. Et puis après, il y a une petite description ou un plus gros reportage, si on a eu la chance d'aller sur place faire un reportage dans les 2 dernières années. Du coup, on est hyper transparent. Et quand on dit que c'est Michel qui fait le radis, ce sera pas Robert, quoi. Ce sera Michel. Et c'est vrai que via le numérique, à la fois, on ne voit pas les clients en personne, donc on ne peut pas leur expliquer comme je vous l'explique là. À la fois, les clients vont aller oser chercher l'information plus peut-être que quand on est en commerce physique où on n'ose pas forcément aller questionner le primeur pendant des lustres sur la provenance de ces produits. Ouais, moi, en tant que consommatrice, j'ai jamais trop osé le faire, en tout cas.
Oui, c'est ça, c'est difficile. On n'a pas forcément le temps, voilà, le primeur n'est pas forcément réceptif, non, mais tout à fait. Mais c'est effectivement, c'est votre force aujourd'hui, par rapport à d'autres systèmes de vente directe.
Oui, exactement. Je pense que les gens sont très contents de savoir ce qu'ils achètent et de savoir qu'ils adhèrent à un système avec les mêmes valeurs qu'eux. Et du coup, après, en fait, ils se reposent sur nous. Ils se disent, bon, ben, c'est une bonne sélectionneuse de produits. Elle va sélectionner les produits qui sont bons, évidemment, parce que ça, c'est genre, sinon l'entreprise ne peut plus exister. Hein. Donc, les produits sont bons, ils sont de qualité, ils sont frais parce que le circuit est très court. Mais on peut lui faire confiance aussi sur le choix éthique, sur les valeurs humaines, sur le fait que il y a des producteurs qui ont soit des conditions d'élevage irréprochables, mais aussi qui croient vraiment dans la RSE, c'est-à-dire qui ont des politiques salariales vraiment humaines. ils savent que tous ces éléments-là, on les prend en compte dans le choix d'un producteur ou d'un éleveur.
Ils vous font entièrement confiance, en fait, c'est ça?
Je pense que c'est ce qu'on a réussi à créer, oui. Une forme de communauté où le client nous fait confiance.
En termes de prix, vous êtes sur un panier moyen de combien?
Alors, comme on propose tout un tas de choses, on a réussi à avoir un panier moyen à 90 euros TTC aujourd'hui. Donc, ça représente en fait les courses pour la semaine. Les gens, ils font leurs courses pour la semaine, voire les deux semaines. Et comme ça, ils optimisent aussi leur livraison.
D'accord. C'est ce que vous étiez fixé comme objectif avant de commencer ou en commençant?
Oui, le panier moyen, je pense qu'il y a 3-4 ans, il était plutôt autour de 75 euros.
Ouais.
Et moi, étant cliente, je savais ce qui manquait dans le catalogue produit. Parce que je savais pourquoi je ressortais dans le magasin et que j'avais pas envie de ressortir. Donc, c'est sur ça que j'ai travaillé en premier. C'était très égoïste, mais c'était pour pas avoir à ressortir. Et du coup, on a quand même considérablement, depuis 3 ans, on a considérablement étoffé le catalogue avec toujours le même cahier des charges, mais en cherchant vraiment des produits qui nous paraissaient importants. La crème fraîche, le beurre, le lait dans des bouteilles en verre, mais stérilisé. Et tout ça, voilà, ça manquait un petit peu. Donc, on a étoffé. On est parti aussi sur du savon avec de la saponification à froid. Voilà, on a un tout petit peu étendu le catalogue pour essayer de, ben, évidemment, financièrement, d'augmenter notre panier moyen, ce qui permet toujours de rationaliser la livraison de ce panier ensuite à domicile. Hein.
Bien sûr.
Et puis, pour permettre aux gens d'avoir un service complet où ils ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin de ressortir pour 2-3 trucs. Voilà.
Il y a quelque chose qui vous tient à cœur aussi, c'est, ça y participe, hein, c'est ce combat contre le gaspillage alimentaire. Parce qu'en fait, quand on fait les courses chez vous, on n'achète pas les promotions en tête de gondole.
Oui, c'est ça. Alors bon, en tant que commerçant, c'est parfois compliqué parce que l'achat plaisir, on n'arrive pas trop à le déclencher. Mais parce qu'en fait, on a des clients qui sont comme nous, qui font attention un petit peu à leurs finances et qui n'ont pas des budgets illimités et qui sont là pour acheter l'essentiel. Et donc nous, on va les aider à acheter l'essentiel. On va leur dire, ça sert à rien de faire ses courses quand on a faim et qu'on n'est pas inspiré et puis qu'on est pressé. Eh ben, on va résoudre tous ces problèmes. On va essayer de vous construire des listes de courses sur la base de recettes et d'idées de menus de saison.
Mmh.
Et du coup, ça, c'est notre petit plus qui est gratuit. Mais en fait, toutes les semaines, moi, je me dis, en bonne mère de famille, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire à manger cette semaine?
C'est ça, avec c'est ce une vraie question. Vous avez raison.
Ben voilà. Et je me la pose en avance, avant d'aller faire mes courses, en fait. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le font. Ma belle-mère le fait, par exemple. Elle a toujours fait. Donc, je me pose. Je mets sur ma liste de courses les idées de menus qui sont un peu innovantes. Et puis, je construis un panier. Donc, nous, on appelle ça des idées menus. Mais c'est un panier type, en fait, avec 6 recettes de saison, soit végétarienne, soit avec une protéine animale. Et je propose ça. Et alors, ça, c'est super parce que les gens, du coup, c'est un accélérateur pour faire les courses. Ça va beaucoup plus vite. Ensuite, c'est personnalisable. Donc, de toute façon, s'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils peuvent l'enlever. Et puis, ils ont les recettes gratuites au moment de la livraison. Et du coup, en plus, ils savent qu'ils ne vont pas s'ennuyer avec les produits de saison. Et en faisant ces courses comme ça, eh ben, on gaspille beaucoup moins parce que le soir venu, quand il est temps de cuisiner, on sait que dans le frigo, on a de quoi faire cette recette. Et du coup, eh ben, on ne s'éparpille pas. Et on jette beaucoup moins.
Ça, c'est le petit plus, le service en plus.
Oui.
Est-ce que la crise, Julie, a changé, la crise sanitaire que nous traversons, a vraiment changé? Alors, à la fois, la façon de consommer de vos clients, parce que vous l'avez remarqué, premier aspect. Et pour vous, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous avez procédé à des ajustements? Est-ce que vous avez vu une augmentation de la demande, par exemple?
Alors, pour nos clients, j'ai envie de dire que ça a pas trop changé les choses parce qu'ils étaient déjà convaincus, ils étaient déjà locavores, ils cuisinaient des produits bruts, ils avaient compris qu'ils économisaient le temps de course et qui du coup ce temps économisé, hop, il suffisait de l'utiliser pour cuisiner du produit brut, voyez. Donc eux, les clients qui étaient déjà là, ça leur a pas changé la vie. Ce qui a beaucoup changé pour notre entreprise, c'est qu'il y a eu un coup de projecteur tout d'un coup sur le fait de manger local.
C'est ça, et sur les circuits courts.
Sur les circuits courts. Et tout le monde s'est rendu compte qu'en temps de crise et quand le transport devient compliqué, c'est super de pouvoir manger des choses qui viennent de pas très loin. Parce qu'en fait, nous, nos producteurs, ça leur a rien changé, la pandémie. Ils étaient dans leur petite campagne à Merville, à Saint-Jory, enfin vraiment dans les petites villes du coin ou petites campagnes. Et ça leur a pas changé la vie. Hein. Donc, on a continué à avoir le même approvisionnement avec la même régularité, la même qualité. Et on a trouvé qu'on était très résistant en fait à une crise sanitaire mondiale. Et ça, j'avais pas perçu cette force-là, moi. Ouais. J'étais convaincue politiquement, éthiquement, dans le local, mais j'avais pas perçu ça, l'autonomie alimentaire.
Ça, c'est vrai.
Et voilà. Donc ça a beaucoup changé de choses. Et c'est vrai que ça a fait venir à nous des clients qui en ont pris conscience. Et pour l'entreprise, eh ben, ça a été un raz-de-marée de commandes. Et puis, en même temps, ce qui a été vraiment très douloureux, c'est que, ben, comme toutes les entreprises, il a fallu, il a fallu qu'on travaille pendant le premier confinement. Donc, moi, mes salariés, j'en ai la moitié qui a eu très peur, qui a pas voulu travailler. L'autre moitié qui était très motivée, mais il a fallu mettre en place toutes les mesures sanitaires tout de suite, en fait. On avait, il nous restait quelques masques, donc on a travaillé avec des masques pour livrer. On a revu tous nos protocoles de livraison pour être très sécuritaires. Et donc, tout ce qui est devenu aujourd'hui du normal, quasi normal dans nos vies, nous, on a été obligés de mettre en place le deuxième jour quoi, du confinement. Mmh. Avec des protocoles nationaux qui n'étaient pas encore tout à fait clairs, avec une grosse incertitude sur ce virus, la façon dont il se propageait. Bon, donc, ça a été une phase très anxiogène. Et moi, en tant que chef d'entreprise, il a fallu que je sois vraiment un gros capitaine de bateau à ce moment-là. Et à prendre des décisions qui ont été difficiles. Il y a été des décisions très faciles de recrutement, par exemple, où on était ravis de recruter des personnes et d'agrandir l'équipe. Et c'est ce qu'on retiendra, parce qu'il y a eu une ambiance aussi phénoménale d'entraide à ce moment-là. Mais ça nous a demandé beaucoup d'énergie.
C'est certain.
De
c'est
s'adapter.
Oui, tout à fait. Mais vous l'avez fait. Bravo.
Oui. Et puis, on en est fiers ouais, de
oui,
l'avoir fait.
J'imagine, bien sûr. Comment vous voyez dans les... on va dire, allez, on va essayer de se projeter un petit peu, même si on sait que c'est difficile, mais dans l'année qui vient.
On se voit, on se voit toujours au même endroit, toujours pareil, toujours dans l'action. On n'est pas trop. Alors, moi, je suis accompagnée de Célia, qui était la salariée qui était là quand j'ai racheté il y a 3 ans et demi, qui est restée, qui est restée, et plus que restée, puisqu'elle a progressé, elle a pris des responsabilités, elle est maintenant cadre. Et ensuite, on a une équipe de 5-6 personnes en fait à temps complet dans l'entreprise. Et ce que j'espère, c'est qu'on voilà, on arrive à garder cette taille parce que on commence à mener des vrais projets où on sort un peu la tête de l'eau, où j'ai le temps en fait de faire autre chose que de préparer des paniers et de les livrer. Et voilà, j'espère vraiment qu'on va réussir à garder cette taille pour pouvoir proposer plus de choses à nos clients, se rapprocher d'eux par des événements, quand on pourra enfin se revoir. On avait envie de faire des ateliers cuisine avec des producteurs et certains clients. J'avais envie de faire visiter des exploitations. Enfin voilà, on avait plein d'idées en fait pour que cette communauté vive aussi physiquement et pas que numériquement. Donc on espère pouvoir reprendre un peu les projets là où ils se sont arrêtés à cause de cette crise sanitaire.
Que vous soyez entendue, Julie. Merci mille fois. Vous nous rappelez l'adresse de votre site internet ?
Oui, alors c'est www.monpanierdecampagne.fr.
On passe ses commandes en ligne et vous nous livrez, tout simplement.
Voilà, exactement.
Merci à vous. N'hésitez pas à nous écrire entreprendre@radioprésence.com et retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radioprésence.com.